Donc c'est la première fois que je vais présenter ces travaux dans le cadre d'un colloque, donc que je vais les appliquer à une problématique, merci, à une problématique universitaire. Donc j'ai quand même essayé de conserver un aspect un peu pop pour la conférence. Voilà, j'espère que ça ne vous choquera pas trop. Alors, un petit rappel sur le concept d'imaginaire radical de Castoriadis. C'est un concept qui a permis aux philosophes d'affirmer que l'humanité disposait d'une capacité d'autonomie fondamentale qui va au-delà des grands mythes fondateurs que sont les différentes formes de théisme, de rationalisme, de naturalisme et toutes sortes d'idéologies. Au-delà, on devrait dire plutôt en deçà de ces mythes fondateurs, l'individu dispose d'une autonomie fondamentale qu'il appelle donc l'imagination radicale, et la société dispose elle aussi d'une capacité d'auto-institution, ce qu'il appelle l'imaginaire social. D'auto-institution, et il va donc utiliser le concept d'imaginaire social pour expliquer comment cette auto-institution peut se produire. Alors, je vais directement prendre son exemple le plus célèbre, à savoir, pour lui, la preuve qu'il existe un imaginaire radical, une capacité de l'humanité à s'auto-instituer. Il s'agit de l'institution de la démocratie en Grèce, qu'il disait allait de pair avec l'invention de la philosophie. Donc la liberté de l'individu pour la philosophie et la liberté de la société de s'auto-instituer par la démocratie. Mais d'après sa conclusion dans l'institution imaginaire de la société, l'auto-institution réclamerait aujourd'hui une destruction radicale, je cite, de l'institution connue de la société jusque dans ses recoins les plus insoupçonnables. Donc c'est là qu'on va essayer d'aller. La citation d'Hans Robert Jaus que j'ai mis ici en exergue fait référence à Iphigénie en Tauride d'Euripide, à ses nombreuses adaptations en opéra, en conte, en essai, mais surtout à sa réécriture par Goethe au XVIIIe siècle. Dans les deux pièces, l'héroïne a perdu tout lien avec sa famille et sa patrie, mais elle continue d'adorer la déesse Diane chez un peuple barbare. Et elle est condamnée à un office des plus absurdes, puisque la loi va l'obliger à immoler tout individu grec au nom de la déesse Diane, ce qui est totalement absurde. Au nom de la déesse Diane, elle devra immoler tout individu grec qui marchera sur les terres des Scythes. Et l'absurdité est rendue d'autant plus flagrante dans la pièce qu'elle va être sur le point d'immoler son propre frère, au reste. Alors, on a par là, chez Euripide, une satire de la réappropriation des superstitions liées à la réappropriation des mythes grecs. Chez Goethe, on a une âme sublime qui est enfermée dans un sacré éloigné de ses origines. Dans les deux cas, l'absurdité de l'office n'est pas due à la barbarie des Scythes, puisque dans les pièces, le roi Thoas, le roi des Scythes, est présenté comme un roi bon et sage. Encore que très naïf chez Euripide et frustré sexuellement chez Goethe. Mais ce n'est pas dû à la barbarie des Scythes, donc, que cet office devient absurde. C'est vraiment la survivance du mythe, du moins c'est le point de vue de Hans Robert Jaus, qui provoque l'absurdité de l'office. Donc cet exemple suggère qu'une institution autonome, qui reposerait sur la volonté de ses participants, sur le besoin, la nécessité, est freinée, est empêchée par la survivance des mythes. Et la meilleure illustration de ça, aujourd'hui, me semble être ces survivants à l'Apocalypse, qui luttent fusil en main contre les restes mouvants de leur famille décédée. Alors, j'aurai pas le temps de développer cet exemple, mais il me semble, d'après Gilles Deleuze et Félix Guattari, il s'agit du seul mythe contemporain, et il me semble qu'on retrouve effectivement, du moins c'est inscrit dans le scénario, les survivants vont devoir fonder une institution, puisque l'apocalypse vient de passer, et ils vont être ralentis dans leur démarche par l'existence du zombie, qui me semble ici vraiment l'allégorie de ces survivances de mythes. On en parlera peut-être juste après pour la conférence sur l'apocalypse. Quoi qu'il en soit, ce que je vais faire à partir de maintenant, donc c'est une présentation de mes travaux, je vais chercher ces mythes à l'intérieur des fictions populaires, puisque la plupart des fictions populaires, alors il y a un gros lieu commun là-dessus, mais j'aurai pas le temps de revenir sur ce lieu commun, mais la plupart des fictions populaires, ça puise leur matière scénaristique, et on va voir pas que scénaristique, dans les grands mythes fondateurs. Et je vais commencer par l'exemple canonique, à savoir Superman, de Jerry Siegel et Joe Shuster. Alors, pour l'analyse, j'ai recours, moi, à la méthode structurale. J'ai toujours recours à la méthode structurale. Et il se trouve qu'il existe un discours structuraliste sur Superman. Donc je vais invoquer un argument d'autorité et je vais refaire ce discours. Donc ce discours, vous l'avez à la fin de Kill Bill volume 2. Donc c'est un discours écrit par Quentin Tarantino. Donc un argument d'autorité en termes de culture pop. Et donc c'est le discours de Bill à la fin de Kill Bill volume 2. Donc je vais essayer de vous le rejouer tout de suite. Alors tu sais sans doute, enfin vous avez sûrement compris, que la bande dessinée est une de mes passions. Notamment les histoires de super-héros. Je trouve que toute cette mythologie du super-héros est tout à fait passionnante. Prenons par exemple mon super-héros préféré, Superman. Pas génial comme BD, pas terrible au niveau du dessin, mais la mythologie est tout à fait fascinante, elle est brillante. Alors, un truc de base dans la mythologie du super-héros, c'est qu'il y a le super-héros et puis il y a son alter ego. Batman est en réalité Bruce Wayne. Spider-Man est en réalité Peter Parker. Quand il se lève le matin, il est Peter Parker. Il faut qu'il mette un costume pour devenir Spider-Man. Et c'est sur ce point très caractéristique que Superman se différencie, le terme est lâché, se différencie des deux autres. Superman n'a pas eu à devenir Superman. Quand il est venu au monde, il était Superman. Quand il se lève le matin, il est Superman. Son alter ego, c'est Clark Kent. Le costume, avec le grand S rouge, c'est la couverture dans laquelle les Kent l'ont trouvé. Bébé, c'est ça, sa tenue d'origine. Quand Clark met le costard et les lunettes, ça, c'est un déguisement. Ça, c'est le costume que met Superman pour donner le change. Clark Kent est l'image que Superman a de nous. Et qu'est-ce qui caractérise Clark Kent ? Il est faible. Il doute de lui-même. C'est un lâche. Il est la critique que Superman fait de toute l'humanité. Donc, ainsi parlait Bill. Alors je disais que ce discours était un discours structural. Alors on y retrouve au tout début, quand Bill évince le scénario et l'illustration de son propos, pour ne se concentrer que sur la mythologie, il reprend la distinction entre poésie et mythos que Claude Lévi-Strauss a mis en exergue dans ses mythologiades, dans le premier tome, Le Cru et le Cuit. Donc il s'agit d'un principe structural, le fait d'opposer ce qui relève de la production, donc la poésie, à ce qui relève du mythos, qu'on pourrait ici comparer de l'inspiration à de l'imagination brute. Donc ce que Bill dit, et ce que je vais dire pour la suite de cette présentation, c'est qu'on ne s'intéressera qu'au mythos. Et ensuite, il va ouvrir un paradigme, le paradigme du super-héros et de l'alter-ego, et montrer en quoi Superman se différencie de tous les membres de ce paradigme, ce qui est l'application stricto sensu du principe sémiologique de différenciation en structuralisme, mais je n'y reviens pas. Donc, par là, Bill va démontrer ce qui fait la valeur de Superman. Et ce qui fait la valeur de Superman, il y a d'autres super-héros qui, comme lui, ont un alter-ego qui n'est pas son identité d'origine, mais ce sont d'autres super-héros extraterrestres. Mais Superman va vraiment se différencier de tous les autres super-héros du fait que, pour devenir Clark Kent, eh bien, il va se lever le matin, il va prendre du gel, redresser sa mèche rebelle, enfiler son costard, mettre une immonde cravate rouge ou à rayures, marcher, prendre le bus, aller au travail. Bref, il va faire exactement ce que nous faisons. Et c'est pour ça que Bill dit quand Clark met le costard, et non pas quand Superman met son costard. Donc ce n'est pas vraiment un déguisement. Superman fait vraiment l'humain. On pourrait même dire qu'il se rabaisse au rang d'homme, puisque Clark Kent est effectivement le pire personnage de fiction qui existe. Vraiment, hein, je n'ai pas mis d'illustration, mais c'est parce que c'était vraiment trop pénible. Alors je continue sur ce principe de méthode structurale. Si je dois comparer ce scénario à un scénario analogue, dans lequel je pourrais ouvrir un paradigme, à savoir un personnage doté de tous les pouvoirs qui va se rabaisser au rang d'homme, eh bien je ne trouve qu'un seul scénario, en fait, dans ma culture personnelle, mais si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir à la fin de la conférence. Il s'agit du mythe de la chute, donc, que j'ai illustré ici par cette petite représentation d'Adam et Ève. Alors ce mythe de la chute, il est vraiment très très présent dans Superman, et je pourrais développer ce que je fais d'habitude, hein, ce sont des conférences qui font normalement 40 minutes par icône, là je vais faire 20 minutes, 3 icônes. Le mythe de la chute est vraiment présent partout dans Superman. Alors ici j'ai mis une illustration d'un des derniers volumes de comics, c'est le Action Comics volume 1 dans le dernier reboot de 2012. Où on voit Superman qui ne vole plus hein, dans ce reboot. Superman tombe, met le pied à terre, et vous voyez, tout en bas de la page, on a Clark Kent qui est formé. Donc on a vraiment une chute illustrée sur cette page, qui m'a semblé très représentative, puisqu'elle n'a pas de dialogue, quasiment pas d'action, c'est juste la transformation de Superman en Clark Kent. Alors que je trouve dommageable du fait qu'il utilise là quand même ses pouvoirs pour devenir Clark Kent, mais on remarquera que c'est pas encore un Clark Kent journaliste, puisque Clark Kent est journaliste. Alors ce qui est vraiment étonnant, c'est que en 85 ans de publication, personne n'a répondu à la question « Pourquoi Clark Kent ?»« Pourquoi Superman a besoin d'être Clark Kent ?» Ça n'a jamais été justifié. Alors si, c'est justifié dans un dernier épisode de Superman et Wonder Woman, mais c'est une justification bancale que la postérité ne retiendra pas, c'est certain. On n'a pas non plus répondu à la question pourquoi Superman essaye de séduire Lois Lane en tant que Clark Kent, alors qu'il sort déjà avec elle en tant que Superman. Hein. Ils s'envoient en l'air tous les deux depuis les débuts de la série. Hein. Ça a toujours été comme ça. Donc ça, c'est vraiment une énigme qui, à mon avis, est vraiment la première explication du succès de Superman, puisqu'en France, le succès de Superman est beaucoup dû à la série Lois et Clark. Donc voilà, on réhabilite ici le personnage de Clark et la mythologie de Superman à travers ce mythe de la chute, encore une fois. Et donc deux arguments pour justifier ici que nous sommes bien en train de regarder un personnage qui rejoue le mythe de la chute. Bien d'abord, c'est ce blason, qui n'a jamais été décrypté comme je vous le présente, mais il me semble qu'il s'agit d'un serpent dans un diamant. Hein, on va pas... Hein, il y a une tête, il y a une queue, le corps au tiers central est plus épais, puisque c'est l'endroit où tous les organes sont superposés à l'intérieur d'un serpent. Bon, est-ce qu'il y a besoin de plus d'arguments que ça ? Il me semble que c'est un serpent dans un diamant et qu'on s'est bien moqué de nous pendant 85 ans. Surtout l'argument majeur, hein, si vous ouvrez la Torah et que vous recherchez le prénom kryptonien de Superman, Kal-El, eh ben, il est là, il est dans le verset 3.10, que je vous traduis tout de suite, puisque je connais très bien l'hébreu. Je rigole. J'ai entendu ta voix, Seigneur, et j'ai eu peur, car j'ai su que j'étais nu. Donc c'est vraiment le début de la chute. L'homme vient d'accéder à la connaissance absolue du bien et du mal, hein, encore une fois, que Superman a. Et le terme Kal-El, je l'ai surligné en jaune. Ah, on ne le voit pas, pardon. Donc c'est le troisième mot en partant de la droite, hein, puisqu'on lit de droite à gauche. Le troisième terme en partant de la droite, Kal-El, qui désigne la voix de Dieu. Donc c'est vraiment le début de la chute de l'homme. Hein. C'est là, c'est le moment où il acquiert d'abord la connaissance ultime, égale à Dieu, et puis là, il commence à avoir peur. Début de la chute, et il va finir sur Terre. Donc Superman, à chaque fois qu'il déchire sa chemise, il enferme le péché originel dans ce diamant, et donc il a la connaissance de Dieu, puisqu'il sait distinguer le bien et le mal, c'est sa première caractéristique psychologique, et il a tous les pouvoirs, puisqu'il est l'égal de Dieu. Donc voilà le mythe de Superman. Alors en quoi ça concerne l'imaginaire social, ce que je suis en train de dire ? Donc il y a énormément de choses dont j'aimerais vous parler, notamment cette idiotie à propos du surhomme dans Superman. Vous avez la version de 1932, que j'ai représentée ici en haut, « The Reign of the Superman », et vous voyez que le personnage de Superman était en fait un humain et qu'il était méchant. Et ça va devenir le personnage de Lex Luthor dans le devenir de la série. Le premier super-vilain dans Superman s'appelle l'Ultra-Humanite. Surhomme, Ultra-Humanite, je vous laisse faire le... Les surhommes dans Superman, ce sont les méchants. Et c'est précisément ce que Superman va faire. Donc il va empêcher la venue du surhomme en préservant le mythe. Voilà. Donc en quoi ça nous concerne tout ça, outre ce grand intérêt philosophique de Superman, eh bien, nous-mêmes, et c'est là que se fait l'identification dont parlait Umberto Eco avec Clark Kent, l'identification mythopoétique, je reprends le terme de l'auteur, nous-mêmes, quand nous nous intégrons à une société d'individus, eh bien, nous avons tendance à nous diminuer. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous présenter, nous n'allons pas montrer tout ce que nous savons faire dans la vie, nous allons nous diminuer, faire semblant de ne pas avoir compris, rester humble et rester bas en société. Et ce comportement-là, qui est un comportement institué, je veux dire, eh bien, d'autant que je sache, en lisant les Grecs, il ne me semble pas être aussi prégnant qu'il est devenu après la période chrétienne. Donc il me semble qu'il s'agit vraiment d'un comportement institué par le mythe. On en discutera après. Je passe à mon deuxième exemple, 007 de Ian Fleming. Est-ce que vous connaissez la véritable identité de 007 ? Eh bien... Il s'appelle Bond, James Bond. Et donc je vous ai mis la tombe de ses parents pour que vous puissiez vous en assurer. C'est la fin du film Skyfall, mais dans les romans de Ian Fleming, le tout dernier roman de Ian Fleming, L'homme au pistolet d'or, le ministre de la Défense veut sacrer James Bond chevalier. James Bond refuse, il dit n'être qu'un paysan écossais et entend bien le rester et surtout ne pas vouloir s'appeler Sir James Bond. Là où Sean Connery a accepté, lui, hein, c'est assez ironique. Alors, la particularité de ce personnage, qui, pareil, n'a jamais été remarquée, je crois que j'ai dû en surprendre au moins la moitié en disant que la véritable identité de 007, c'était son identité, enfin celle qu'il utilise tout le temps. C'est un personnage qui ne se déguise jamais. Dans les romans de Fleming, quand il se déguise, il échoue toujours dans sa mission et est particulièrement ridicule. Dans les films, le seul film où il va adopter une fausse identité, c'est Les Diamants sont éternels, qui est un film parodique avec Sean Connery. Donc vous voyez, le mythe qu'on est en train de dégager, là, va jouer jusque dans le type d'adaptation et le format qu'on va utiliser. On va, pourquoi un James Bond parodique ? Moi, j'ai trouvé ça vraiment ridicule, parce que James Bond change d'identité, ce qui est déjà ridicule pour James Bond. Dans les romans d'Ian Fleming, il a une cicatrice de 6 cm sur la joue droite, porte une mèche rebelle en plein milieu du front, exactement comme Superman au passage, boit toujours, bon, vous le savez, il boit toujours les mêmes alcools, il a toujours le même type de femme, etc. C'est quelqu'un qui ne change jamais. C'est quelqu'un qui affirme son identité en permanence. Et c'est ça qui fait la psychologie de James Bond. Et cette psychologie va s'opposer à la devise de son employeur, à savoir le MI6, Service secret de renseignement britannique, dont la devise est « Semper Occultus », toujours, toujours caché. Eh bien, James Bond donc va s'opposer à ça dans son comportement de tous les jours, et on se demande bien, là encore, pourquoi. Pareillement, suspension volontaire de l'incrédulité, où es-tu ? Alors, je vous montre ce petit symbole, là, là-haut, qui est le symbole des grands méchants des films de James Bond, le spectre, où, au contraire de James Bond, tous les méchants ont une identité cachée, vivent cachés dans le cratère d'un volcan, sous l'océan, dans le désert, dans une jungle épaisse. Toujours, toujours, les méchants vivent cachés. Hein. Donc ils sont une sorte de prolongation de ces missions du service secret. Tout ce à quoi va s'opposer James Bond est ce qui est caché. C'est un débusqueur et c'est ce qui le rend très, très doué aux cartes, au poker, et en tout ce qui concerne les duels psychologiques. Eh bien, tout ça va reprendre un mythe que Ian Fleming a inscrit en filigrane dans son premier roman « Casino Royale ». Quand il décrit le chiffre, il le décrit comme un minotaure en smoking émergeant d'une prairie. Ce qui fait de James Bond une sorte de Thésée en costard. Et voici comment ça se passe, en fait. Clairement, ce qui va provoquer la monstruosité dont parlait encore une fois Umberto Eco dans les méchants de James Bond, ce n'est pas leur affiliation nazie, puisqu'il n'y en a qu'un qui a une affiliation nazie, ce n'est pas leur affiliation communiste, puisqu'il n'y en a quasiment plus dans des adaptations de films. Ce qui rend ces méchants monstrueux, c'est le fait qu'ils vivent cachés. Et même la figure de James Bond a un côté monstrueux. Dans le roman, je cite, lorsqu'il dort... Sa figure devient, lorsqu'il dort la main sur son flingue bien cachée sous l'oreiller, sa figure devient glaciale, ironique et brutale. Donc il y a une part de monstruosité, et c'est ce que représente son matricule 007, à savoir qu'il a le droit de tuer, et qu'il l'a déjà fait. C'est la seule chose qu'il va cacher. Son flingue aussi, qui est un tout petit flingue, contrairement à sa qualité d'étalon, il a un tout petit pistolet, mais c'est parce qu'il le cache, tout simplement. Je pourrais développer encore une fois la mythologie de James Bond à l'infini. Donc nous aussi, je pense, nous avons cette croyance psychologique de dire que dès que nous cachons quelque chose, cette chose est nécessairement monstrueuse et va se monstruosifier de toute façon. Encore un mythe. Allez, je termine avec Alien, qui est de loin mon film préféré. Je voudrais utiliser Alien. Bon, le mythe d'Alien, c'est le mythe de Prométhée, je vais essayer de pas trop insister dessus. Dan O'Bannon, quand il a écrit son premier scénario, signer la fin de l'humanité, hein, c'est-à-dire que l'alien retourne sur Terre à la fin du script original, et les œufs aliens étaient en fait des jars dans le script original. Donc c'est vraiment une réécriture du mythe de Prométhée, et ça a été petit à petit effacé du script pour devenir complètement invisible. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la réactualisation des mythes, dont je n'ai pas eu le temps de parler pour Superman et James Bond, mais pour Alien, c'est beaucoup plus clair, puisque Alien sort en 1979, et cela fait 4 mois que la sonde Voyager 1 a atteint Jupiter, et ça, ce sont les premières images d'Alien. On a une mimésis historique dans Alien, une mimésis historique totale. On va avoir une planète, une géante gazeuse, avec un anneau, avec un œil, avec 3 lunes. Et c'est sur ces lunes que les passagers du Nostromo vont se retrouver et tomber sur une espèce fatale à l'homme. Donc on part de cette mimésis historique, on part de l'engouement qui saisit l'humanité à cette époque, hein, puisque la conquête spatiale est une réalité. On a les premières photos de Jupiter. Il y a un engouement tel que le film ne pouvait qu'être un film d'horreur, puisque en réactualisant le mythe prométhéen, ce que va montrer ce film, en fait, c'est que la technologie, qui est devenue totalement maîtresse de l'homme dans la série des Aliens, le vaisseau s'appelle Maman, l'équipage dort au début. Le seul scientifique de l'équipage est un robot. On le sait que plus tard dans le scénario, ce qui rend le scénario encore plus angoissant, étrangement. Donc tout dans Alien, le sort de l'humanité dans Alien, c'est la science et la technologie qui le produit. Et l'alien lui-même n'est pas le méchant de l'histoire, puisqu'il n'a rien demandé d'autre qu'à se reproduire. Mais au final, pour se reproduire, il a besoin de l'homme. Il a besoin de l'homme pour terminer son embryogenèse. Et on se demande, d'ailleurs, encore une fois, invraisemblance totale, qu'est-ce qu'une espèce qui a besoin de l'homme pour terminer son embryogenèse fiche à 40 années-lumière de la Terre? Là encore, pas de réponse, hein, et le spectateur reste complètement crédule de la chose, qu'il soit dans le film ou en dehors du film, encore une fois, puisque c'est bien ce que j'ai essayé de démontrer pendant toute cette conférence, à savoir le fait que le mythe perdure en dehors de la fiction, ce qui fait qu'il mérite ce nom de mythe et ce rattachement à l'institution. Alors, hop, on va terminer sur les petites animations, tout ça, je vais conclure. Alors, pardon, je cherche ma conclusion, parce qu'elle est quand même écrite, celle-là. Donc, le mythe, tel qu'on vient de le présenter, montre la factualité de l'imaginaire social. Je prends le terme de factuel de Cornelius Castoriadis lui-même. Il dit que l'imaginaire social est un fait. Donc, il ne faut pas s'attarder sur des représentations, c'est un fait. Et ici, on le voit, ce fait, on peut montrer l'imaginaire social ainsi que je viens de le faire, puisqu'on dévoile des institutions qui, dans notre esprit, dans notre conscience collective, n'en sont pas ou plus, alors qu'elles en sont clairement. Et on montre en même temps le côté fictif de ces institutions par le mythe. Je pense que c'était vraiment le rôle du mythe dans la Grèce antique, et là je reprendrai les travaux de Marcel Détienne et Jean-Pierre Vernant pour défendre ce point de vue. Mais je n'ai pas le temps de le faire, évidemment. Donc on peut montrer en tout cas la réalité de l'imaginaire social. Mais plus encore, la définition du mythe qui ressort de ces travaux, surtout de leur présentation dans le cadre de ce colloque, permet d'intégrer ce concept de mythe à l'imaginaire social. Car il y a quand même des blancs dans la philosophie de Castoriadis, notamment la séparation entre idios koinos et la façon dont l'institution parvient à se maintenir dans l'imaginaire social alors qu'elle naît d'un magma, comme le dit Castoriadis. Elle naît d'un magma, qu'est-ce qui lui permet de se maintenir? Eh bien, je pense que c'est ce mythe qui permet à l'institution de se maintenir, car il permet à chaque individu de se représenter l'institution. Alors que l'institution a un corps de loi qui vaut pour tous les individus, dans l'imaginaire social, inerte, eh bien, ce côté malléable, ce côté mouvant, est canalisé par le mythe. Le mythe, c'est sa définition, c'est la définition qu'en donne Claude Lévi-Strauss, c'est cette partie du discours où la formule « traductor et traditore » atteint zéro. N'importe qui peut se réapproprier le mythe, et c'était d'ailleurs comme ça qu'il était utilisé dans les sociétés antiques. Donc, la meilleure illustration que je pourrais vous donner, en sus des trois que j'ai déjà données, c'est l'invention de la philosophie, qui, d'après moi, aujourd'hui, s'est introduit dans l'histoire comme le mythe de la pensée libre nécessaire à l'institution de la démocratie. Et je vous remercie pour m'avoir écouté jusqu'ici.